Il est midi 55 minutes.
Évariste, dis comment y en a.
Bienvenue à cette actualité de la mi-journée de ce jeudi 24 octobre 2019, dont voici d'abord l'essentiel. Quatre journalistes et un chauffeur du groupe de presse Iwachu sont à la troisième journée incarcérés au cachot du commissariat de la police à Bubanza. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique fait savoir que les enquêtes continuent sur ces derniers. Ils ont été arrêtés mardi dernier en commune Musigati en train de mener des investigations sur la situation sécuritaire. La police burundaise a présenté ce jeudi 5 personnes accusées de contrefaçon. Moïse Ngurunziza, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a indiqué à la presse que parmi ces 5 faussaires, il y a un récidiviste, vous l'entendrez dans ce journal. Et des nids de poules s'observent dans certaines rues de la capitale économique Bujumbura. Les transporteurs des personnes et des biens indiquent que ces derniers causent souvent des accidents. François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu sont toujours incarcérés au cachot du commissariat de la police à Bubanza. Il s'agit d'Agnès Ndiroubousa, Christine Kamikazi, Egide Halilimana, Terence Mozenzi, ainsi que le chauffeur Adolphe Masabarakiza. Ils ont été arrêtés ce mardi à Musigati, dans la province de Bubanza, car ils s'étaient rendus pour enquêter sur la situation sécuritaire qui prévalait après l'attaque d'un groupe d'hommes armés, comme l'a confirmé le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, interrogé par un officier de la police judiciaire ce mercredi. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Dans une conférence de presse ce jeudi, Moïse Ngurunziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, a fait savoir que les enquêtes continuent. L'écoute.
Ils sont à Bubanza, au commissariat provincial de Bubanza. Des enquêtes sont menées sur eux. Et vous savez très bien que de telles enquêtes, en matière d'enquêtes préliminaires et judiciaires, ce sont des enquêtes qui se font discrètement. Et attendons alors la fin des enquêtes. Et au moment voulu, si jamais les faits qui les sont reprochés ne seront pas prouvés, ils seront relâchés. Et au cas contraire, ils seront transmis aux instances habilitées, au ministère public et à la justice.
Propos recueillis par Mireille Kanyang. 5 personnes dites faussaires ont été présentées ce jeudi à la presse burundaise par la police burundaise. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique fait savoir que parmi les 5, il y a un récidiviste. Moïse Ngurunziza affirme une bonne collaboration avec le ministère public. Il appelle les Burundais à dénoncer de telles personnes délivrant des faux documents. Suivez-les encore une fois.
C'était en date de 18 octobre 2019 où la police a eu cette information. Le lendemain, entre le 19 et le 21 de ce mois, la police a pu appréhender 5 personnes. Sur toutes ces personnes, la police a pu saisir 6 cartes, certificat international de vaccination, communément appelé carte jaune, cachet de la banque au bout, des permis de conduire biométriques, les titres de propriété, les diplômes universitaires et humanitaires, les cachets du parti CNDD-FDD, les cartes nationales d'identité, les vignettes fiscales de l'OBR, les attestations de capacité financière, les quittances de l'OBR, les différents contrats et factures et autres documents. Ce genre de criminalité n'est pas du tout nouveau ici au Burundi, mais nous regrettons quand même qu'il y a encore déjà qu'il faut recours à ce genre de documents en cas où de tels documents, de faux documents parviennent à être appréhende le responsable, le titulaire de ce document. Il est appréhendé et il est poursuivi pour l'usage de faux documents. Nous interpellons alors la population à ne plus faire recours à ce genre de documents.
Il y a un récidiviste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas collaboration entre la police et la justice?
Il y a une très bonne collaboration entre la police et les instances judiciaires. Mais déjà, pareil, à qui la police transmet à la justice. Et la justice fait son travail. Ils sont condamnés, ils purgent les peines et ils sont relaxés. procès conformément à la loi, mais désolé qu'ils reviennent et qu'ils commettent les mêmes forfaits. Et là, la police continue son travail et ils arrêtent et ils seront sanctionnés conformément à la loi parce qu'il y a une disposition qui parle des récidivistes. Comment alors ils vont cette fois être sanctionnés?
De Bujumbura, rendons-nous au sud du pays, en province Makamba précisément, où un corps sans vie d'un enfant âgé de 2 ans et 8 mois a été retrouvé l'après-midi de ce mercredi dans un fossé de 3 mètres de profondeur par une équipe de la police, de la protection civile, de l'administration ainsi que celle de la Croix-Rouge au quartier Kigwat 1, commune et province Makamba. Irakoze Riziki, originaire du quartier voisin d'Iswahili, était disparu depuis 18 octobre selon ses parents. Après le constat de l'OPJ, l'enterrement a eu lieu. La police indique que les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs et les circonstances de la mort de cet enfant.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Il s'observe des nids de poules sur différentes parties de la voirie du centre-ville de Bujumbura, sur la route nationale numéro 7 Bujagenda, sur le tronçon de la zone urbaine de Musaga. Les transporteurs des biens et des personnes font savoir que ces nids causent souvent des accidents et que les initiatives de boucher ces trous restent une solution épineuse, surtout durant la période pluvieuse, ce qui confirme Antoine Rumenietso, chef de zone Musaga. Charles Makoto nous en dit plus.
Les endroits
les plus menacés par ces nids de poules, c'est notamment devant le siège du bureau postal sur le boulevard Patrice Lumumba. Visiblement, ces trous avaient été bouchés à l'aide du gravier, bien qu'aujourd'hui, certains de ces trous sont ouverts. C'est également la partie qui va du siège de Star Time, en passant par Canal Plus, jusqu'au siège de la banque KSB, où il est quasi impossible de faire 10 pas sans basculer dans des trous qui rongent une bande de cette boulevard. La situation est identique devant l'école fondamentale Stella Matutina. Sur la RN7, au niveau du pont Moura, des individus bouchent les nids de poules à l'aide des morceaux de briques cuites et demandent aux conducteurs de les laisser un peu dessous. Au niveau du lycée municipal de Moussa, le croisement de 2 véhicules relève de l'exploit. Ces trous pleins des eaux de ruissellement par endroits entre la 1ère et la 2ème avenue contraignent les transporteurs à emprunter la piste réservée aux piétons devant une station d'essence en construction sur ce tronçon. Le gros des accidents sont dus à ces trous qui jonchent cette route, explique ce conducteur de vélo.
Le véhicule essaie de contourner les trous, de même pour les vélos et les motos. Cela fait que les piétons soient éclaboussés ou cognés.
Nous demandons le concours de l'État, dit cet autre transporteur qui explique que boucher ses nids à l'aide de la télite reste une solution éphémère, surtout dans cette période pluvieuse.
De mon côté, je demande que l'État fasse tout ce qui est dans son pouvoir avec le peu de moyens disponibles et qu'ensemble, avec la population, puissions réparer ces nids.
Point de vue partagé avec le chef de zone Musaga, il indique que l'administration locale, en collaboration avec les associations des transporteurs, essaie chaque fois de boucher ces trous, mais que les eaux de ruissellement charrient avec elle tout le gravier déposé. Antoine Rumenietso appelle toutefois les habitants proches des parties endommagées de ne pas désarmer en attendant que des travaux durables soient entrepris. Contacté à ce sujet, le ministère des Travaux publics a promis de s'exprimer ultérieurement.
Parlons femmes.
La gestion des biens familiaux reste lacunaire dans la commune Nyabitinda de la province Ruigi, affirme des femmes rurales de cette commune. Elles expliquent que les maris peuvent vendre les récoltes de riz à l'insu des femmes. Le coordinateur du centre de développement familial communautaire au niveau de la province Ruigi fait savoir que ce genre de comportement handicape le développement des foyers. Le conseiller principal et du gouverneur de la dite province appelle, quant à lui, les conjoints à gérer de façon consensuelle des biens familiaux. Les détails avec Vestine Outoy.
Nous sommes sur la colline Kirungu de la commune Nyabitinda, province Ruyigi, là où une des femmes rurales rencontrées dans cette localité dit que la femme rurale n'a pas de place dans la gestion des biens familiaux. Elle explique que pendant la récolte du riz, sa gestion totale est assurée par le mari.
Quand le mari veut vendre une parcelle et que tu t'y opposes, il peut même te chasser de la maison pour revenir étant soumise. Et quant à la récolte du riz, c'est le mari seul qui a le droit d'aller le vendre au marché, que tu le veuilles ou pas.
Néanmoins, un homme de la dite colline signale que dans son foyer, la gestion de leurs biens est consensuelle à ce que la moisson reçue leur serve d'atteindre le développement durable.
Nous nous accordons avec ma femme pour vendre une partie de la récolte afin d'acheter une parcelle dans les marais. Et l'argent qui reste nous aide dans l'achat de nos vêtements et ceux de nos enfants.
La culture burundaise serait à l'origine de la non-implication de la femme rurale dans la gestion des biens familiaux, pense le coordinateur du Centre de développement familial et communautaire au sein de la province de Ruyigi. Dominique Avialimana précise les conséquences qui en découlent, entre autres la malnutrition et la pauvreté.
Vous entendrez qu'il aura des problèmes pour se développer et s'il a des problèmes pour se développer, c'est toute la communauté, c'est le pays aussi. Mais aussi, si la femme et l'homme ne s'entendent pas sur la gestion des biens de leur ménage, eh bien, il peut engendrer la séparation de la femme et de l'homme. Ça peut causer aussi une situation d'abandon pour les enfants au niveau scolaire. Encore plus, ça peut aussi causer des problèmes de nutrition.
Au moment où ces femmes rurales demandent à leur mari de leur réserver la place dans la gestion des biens de leur foyer, le conseiller principal du gouverneur de la province de Ruyigi, Valérie Nguzimana, conseille tous les conjoints à être en commun accord dans la gestion des biens de leur ménage en vue d'atteindre le développement durable.
Merci à Vestine Neboutoyi. Parlons sport à présent. La formation de basketball Les Gazelles reconnaît une erreur en représentant le Burundi dans les compétitions régionales de la zone 5 sans son arbitre international et son médecin. C'est après que le président de la Fédération burundaise de basketball ait accusé cette équipe d'avoir violé les conventions de cette compétition. Dorine Kamikadi, vice-présidente de cette formation, indique qu'ils avaient cherché tous les documents nécessaires tout en précisant qu'ils ont manqué de moyens nécessaires pour leur déplacement. Suivez-la, joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Ngindakumana.
On nous a fait un forfait contre l'équipe du Rwanda, APR. On avait un deuxième match, mais malheureusement, on a été disqualifié parce qu'on n'avait pas amené un médecin et un arbitre international. Mais sur ce, je voulais dire que normalement, les textes disent que ce médecin et cet arbitre international, ils devaient être pris en charge par la fédération. Mais ça n'a pas été le cas parce que le président de la fédération nous avait dit que c'est nous, le club, qui allons payer ces frais, alors qu'on n'en avait pas dans notre budget.
La faute revient à qui?
La faute revient bien sûr à la Fédération du basketball burundais.
Pourquoi vous avez décidé de participer alors que vous ne remplissez pas toutes les conditions exigées?
De notre côté, on remplit tout ce qui peut être payé, par exemple les frais de participation et autres choses. Mais malheureusement, ce qui manquait, c'est justement le fait qu'on n'a pas amené ce médecin et cet arbitre international.
Le président de la Fédération burundaise de basketball indique que vous étiez au courant que vous devriez participer dans ces compétitions avec ces personnalités. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, on était vraiment au courant de ça, mais on lui avait expliqué qu'on n'avait pas de moyens pour pouvoir amener ces deux personnes qu'on exigeait. Donc on n'avait pas de moyens pour ça, on l'avait signalé même avant. Et après, on avait demandé au président de la Fédération de basketball du Burundi. Donc s'il voyait vraiment que ça allait nous coûter cher si on faisait ce voyage sans ces deux personnes, on l'avait demandé de nous écrire une lettre officielle expliquant pourquoi il nous interdit d'aller participer à ces compétitions. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait.
Après ces sanctions infligées contre la formation des Gazelles, est-ce que cette équipe continue les compétitions?
On n'a pas pu continuer la compétition parce qu'on nous avait dit si on allait continuer, à condition qu'on allait payer cette amende-là. Ça n'a pas été possible parce qu'on n'a pas cet argent-là.
Parle, rassure-moi.
Les insultes et les blagues entre deux groupes de personnes peuvent inciter à une violence de masse. Ce sont les propos du chercheur sur les aspects mémoriels qui explique qu'une partie voudrait se venger. Dans nos éditions précédentes, l'on vous a parlé que des blagues et des insultes commencent comme une sorte de plaisanterie. Alors, Matungwanayo suggère que le meilleur moyen de prévention contre ces violences de masse, c'est nécessairement le dialogue entre ces deux parties en conflit. Plus de détails avec Ornella Mucho.
Une fois que le groupe quelconque de gens a identifié de mauvais un autre groupe, il arrive à un moment où il passe à un stade de les exterminer. Cela est expliqué par le chercheur sur les aspects mémoriels Aloïse Batungwanayo, qui souligne que telles sont les conséquences des insultes et des blagues commencées au départ comme une plaisanterie. Dans nos éditions précédentes, il avait donné l'exemple des groupes de gens qui étaient surnommés Iboro et ou Serpents dans les moments de guerre.
La première conséquence est d'abord la coupure du pont entre les groupes, parce qu'on aura les bons et les mauvais. C'est la deuxième conséquence, c'est l'alimentation des violences de masse. Où le groupe de gens qui se sent lancer des blagues va vouloir exterminer ces gens qui ont été diabolisés.
Un autre groupe qualifié de mauvais peut de son côté vouloir se venger. Le chercheur Aloïse Batungwanayo l'explique encore.
Ces messages de haine pour les gens qui sont visés, ce sont des blagues qui diminuent la valeur de ces gens. Et lorsque ce groupe de gens se sent diminué, c'est un groupe qui devient très frustré. Et c'est un groupe qui commence à être sur la défensive. Et pourquoi pas, au moment opportun, à être sur l'offensive.
Selon lui, l'un des meilleurs moyens de prévention est que les membres du groupe qui lancent des insultes et ou des blagues osent refuser dès le début de se moquer des autres.
Il faut, dès le début, commencer à barrer la route à ces propos. Il faut que j'ose leur dire que, voilà, ces mots blessent l'autre groupe. Et on a toujours vu que les enfants sont souvent manipulés et lorsqu'il y a la conception de ces mots par les adultes, ils transmettent ces mots à leurs enfants, les jeunes, et ces jeunes-là vont l'utiliser. Il faut interdire à ces enfants de ne plus adresser des mots pareils à l'autre groupe. Lorsqu'on est à l'école, les amis, il faut leur dire, mes chers amis, ce que vous dites, pas bien.
Aloïse Batungwanayo appelle un autre groupe de gens insultés d'approcher l'autre afin de lui dire ouvertement qu'ils sont mécontent. Il rappelle qu'avant tout, le dialogue est la meilleure solution.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Quatre journalistes et un chauffeur du groupe de Pressiwatchou sont à la troisième journée incarcérés au cachot du commissariat de la police de Boubanza. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique fait savoir que des enquêtes continuent. Ils ont été arrêtés mardi en commune Moussigati en train de mener des investigations sur la situation sécuritaire. La police burundaise a présenté ce jeudi 5 personnes accusées de contrefaçon. Moïse Nkurunziza, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a indiqué à la presse que parmi ces 5 faussaires, il y a un récidiviste. Et des nids de poules s'observent dans certaines rues de la capitale économique Bujumbura. Les transporteurs des personnes et des biens qui crient au secours indiquent que ces derniers causent souvent des accidents. Merci d'avoir suivi ce journal et merci à François Kinman pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndzikobanyanga. Nous vous souhaitons un bon après-midi.